Eh bien, merci. Vous savez que nous avons l'habitude au séminaire de ne pas nous cantonner au Moyen Âge, une époque qui est par nécessité celle concernée par le cours, mais que très souvent j'essaye, s'ils ont la bonté d'accepter, d'inviter les personnes dont l'œuvre où les préoccupations correspondent au thème du cours, mais à une toute autre époque ou dans une toute autre perspective. Alors du coup, peut-être que je n'invite pas assez de médiévistes. Une dame vient de me reprocher de ne pas faire venir cette année André Vaucher, mais j'ai déjà fait venir André Vaucher, qui est gentil, un ami cher et plein de bonne volonté, mais enfin, qui non plus ne viendrait pas constamment. Voilà. Parce que, oui, il a eu dans le Figaro, le dernier Figaro littéraire, une page entière, un article magnifique à propos de son Catherine de Sienne, son dernier livre, qui est un très beau livre, où il tire vraiment le maximum de Catherine de Sienne, qui n'est peut-être pas une femme qu'on aimerait voir tous les jours, et je vous recommande surtout tout ce qu'il a fait sur la religion des laïcs, enfin au Moyen-Âge, qui est son grand thème, et son grand livre sur Saint François d'Assise, il y a quelques années, qui a croulé sous les prix, et qui est vraiment, enfin bon, je ne vais pas perdre du temps à vous expliquer pourquoi, mais c'est un livre à tous égards admirable, de science, d'intelligence et de tact, parce que ce n'est pas facile de parler de François d'Assise. Bon, mais là, nous ne parlons pas de François d'Assise, c'est M. Laurent Chalumeau. Voilà. Pourquoi M. Laurent Chalumeau, qui est un romancier abondant et passionnant, qui est un scénariste. Alors, je n'ai pas vu tous les films. Mais non, mais alors il y en a un. Moi, je voudrais voir Total Western.
Oui, alors à la rigueur.
Total Western. Et alors, bon, c'est ça. Bon. Et qui est un dialoguiste. Enfin, bon. Et alors, pourquoi invitais-je M. Laurent Chalumeau, qui a eu la gentillesse de venir, alors que c'est vraiment chez les vieux profs? Parce que il a écrit, c'est le premier roman que j'ai lu de lui, mais c'était le dernier. Bon, j'avoue que je n'ai pas suivi sa production depuis le début. J'ai lu Kif l'an dernier, Kif paru chez Grasset l'an dernier, avec une admiration sans bornes. Et j'ai vu d'ailleurs que Laurent Chalumeau poursuivait dans une veine qu'il avait déjà commencé à exploiter, parce qu'ensuite j'ai lu un autre roman qui s'appelle Bonus, et Bonus m'a paru comme une première répétition de Kif, où on trouvait déjà bien des éléments qui font l'intérêt de Kif, mais moi, ce qui fait que je peux me permettre d'inviter Laurent Chalumeau à ce séminaire relation avec le thème parler aux simples, parler des simples, Bonus ne pousse pas jusqu'à la même perfection, ce qui fait de Kif un roman, on emploie génial à toutes les sauces, mais enfin vraiment, un roman pour lequel j'ai une admiration sans borne. C'est que, je ne veux pas déflorer ce roman en le racontant, mais ça se passe sur la Côte d'Azur avec des personnages appartenant à différents milieux en bordure du milieu. Il y a le personnage normal est un ancien CRS, mais qui se trouve diriger une boîte de nuit. Il y a un neveu ou un cousin de Ben Laden qui parle français avec l'accent suisse parce qu'il a été élevé dans un pensionnat suisse, mais il se fait appeler Monsieur Bin Laden parce que c'est gênant de s'appeler Ben Laden. Et alors on veut lui soutirer de l'argent. Et en retour, tous les gens qui veulent lui soutirer de l'argent. Il y a un videur black, un gentil videur beurre, il y a un rouquin représentant spiritueux chez Pernod Ricard, mais converti à l'islam radical à Fleury-Mérogis, qui est sacrificateur halal sous le nom de Kader Kevin. il y a un ancien acteur de Hard qui est devenu proxénète. Il y a des tas de gens.
C'est à Côte d'Azur, quoi.
Une élue du Front National, enfin, dans un... qui est la petite amie du gentil beurre qu'on croit djihadiste, mais il est seulement amateur d'arts martiaux. On ne pouvait pas prévoir, tristement, il y a une fusillade dans une boîte de nuit, enfin bon, tout ça. Mais il y a le CRS, il y a la sœur et le beau-frère du CRS, et le beau-frère est complètement beauf, et la sœur aussi, enfin elle est beauf. Et alors, tout ça est important parce que chacun, alors c'est pour ça, je termine mon éloge de Chalumeau sur cette remarque, chacun parle un français. Qui est le français parlé, le français, un français qui peut être populaire, un français qui peut être incorrect, un français qui peut être à la mode, etc., enfin, avec les expressions dont tout le monde use à un moment donné. Et donc, il parle ce français oral, et si on veut relâcher, mais il ne parle pas le même. Et chaque chapitre représente le flux de conscience, si on veut, où est placé du point de vue d'un des personnages. C'est la voix de ce personnage qu'on entend. Et avant même qu'on ait lu assez du chapitre pour savoir auquel on est passé, on le reconnaît aux nuances, aux tics d'expression et de vocabulaire, et aux nuances dans la façon de s'exprimer. Laurent Chalumeau a une oreille à la façon dont on parle. Alors on dit, mais de minuscules fautes de français. On se dit, mais c'est pourtant vrai, tout le monde dit comme ça. Ou les gens disent comme ça. C'est une merveille. Bon. Mais enfin, tout ce que je peux dire, c'est mon enthousiasme. Et pour le remercier d'être venu, parce que, bon, c'est...
Ça vaut mieux qu'une tarte dans la gueule comme invitation.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais enfin, bon. Et voilà. Et c'est à lui.
J'adorerais pouvoir me passer de ça, donc de ça, mais bon, il faut connaître ses limites. Donc la série de cours de Michel Zinc s'intitule « Parler aux simples, parler des simples ». Pour ma part, quand il a fallu donner un titre pour annoncer un peu la couleur de ce que j'allais vous raconter, j'ai proposé « Naturel et vraisemblance », parce que j'ai l'impression que cette invitation, et ce que vient de dire Michel Zinc me le confirme, j'ai l'impression que je dois cette invitation à des années et des années de réflexion et, disons-le, de travail sur justement ces deux notions, le naturel et la vraisemblance. C'est pourquoi, si vous voulez bien, je vais essayer de vous raconter comment j'en suis arrivé à faire parler les simples et à parler des simples avec assez de naturel et de vraisemblance pour attirer l'attention de Michel Zinc. Pour ça, il m'aura fallu pas loin de 30 ans et la rencontre avec l'œuvre de trois auteurs, si bien que, plutôt que des miens, ou plutôt au contraire pour éclairer et expliquer les miens, c'est de ces livres-là dont j'aimerais vous parler. Le premier de ces livres, et quand bien même il n'était pas au programme, je l'ai lu lorsque, sur un malentendu et à la suite d'une mauvaise orientation, j'ai enchaîné une hypocagne et deux cagnes. En l'occurrence, les dates sont importantes, car mon passage en prépa s'étale entre 1978 et 1980. Des années qui constituent un petit peu la queue de comète ou les arrêts de jeu de cet avatar du structuralisme qu'a constitué ce qu'on appelait alors la nouvelle critique ou aussi parfois le telquelisme, courant dont il ne s'agira certainement pas de critiquer, qu'il ne s'agira certainement pas de critiquer en ces lieux. Mais bon, n'est pas Roland Barthes ou Gérard Genette qui veut. Et dans les années 70, leurs intuitions géniales ont pu déboucher sur des déviances dévoyées et mal digérées. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Zvetan Todorov, l'un des animateurs du club à l'époque, qui a depuis publié une sorte de mea culpa effarée en mode « Dieu m'est témoin que nous n'avions pas voulu ça ». En gros, pour rafraîchir les mémoires, on avait décrété la fin du roman à peu près aussi hâtivement qu'on a plus tard annoncé la fin de l'histoire. On était au-delà de l'ère du soupçon, on était dans l'ère de la suspicion, donc des suspects, et comme de juste en régime totalitaire, les suspects étaient coupables. Alors ce n'était pas la fiction dans son ensemble qui était mise en accusation, c'était uniquement une de ses variantes, le roman réaliste ou naturaliste tel qu'il avait pu prévaloir au XIXe siècle. À travers lui, plus précisément, c'est l'idée même de vraisemblance qui était remise en cause, c'est-à-dire le principe même de ce que les anglo-saxons appellent la suspension temporaire de l'incrédulité, ou qu'en France on appelle le pacte narratif. Pacte narratif qui en Occident est devenu implicite, mais qui se conclut, dit-on, de façon rituelle dans d'autres cultures. Ainsi, à l'époque, justement, quand j'étais étudiant, j'avais lu que, et là je vais vous faire voyager, vous vendre du rêve, dans les caravansérails afghans, le soir, au coin du feu, au moment de se faire une bonne soirée tradition orale entre hommes, non, monsieur de Caunes, ce n'est pas des talibans qui se turlutent, c'est des nomades qui se racontent des histoires. Donc, en fumant du hashish local, dans ces caravansérails, donc, la coutume prévoyait qu'en préambule, le premier des orateurs de la veillée dise aux autres « Je vais vous dire un conte ». Les autres étaient censés répondre en chœur « Bien entendu » en afghan. Donc, je vais vous dire un conte, bien entendu, tout n'y est pas vrai, bien entendu, mais tout n'y est pas faux, bien entendu. Tout le monde était prévenu, personne ne pouvait plus venir râler, et le récit pouvait alors commencer. Et donc, dans les années 70, et singulièrement vers leur fin, dans les cercles universitaires, on considère qu'après Proust, après Joyce, après Freud, après Céline, après Auschwitz aussi, le roman réaliste a atteint son degré d'incompétence. Donc, Proust, Joyce, Freud... Et puis bien sûr André Breton, qui dans le Manifeste du surréalisme citait Paul Valéry, lequel lui aurait un jour assuré qu'il se refuserait toujours à écrire une phrase aussi nasbrock que, je cite, « La marquise sortit à 5 heures ». Pauvre marquise devenue depuis l'exemple type de la phrase stock, gratuite, hors sol, véreuse, totalement dénuée d'urgence et d'authenticité. Bon. Dans ce contexte, toute prétention à représenter le réel en écrivant est soudain considérée comme vaine, stérile, perdue d'avance, donc au mieux naïve, ringarde, bourgeoise, plouque, comme la peinture figurative ou les sacrés cœurs qu'on achète place du Tertre. Mais en cas d'entêtement, on passe de la faute de goût à la faute tout court, de l'esthétique à la morale. Cette obstination à vouloir produire du roman à l'ancienne cache forcément le projet de distiller sournoisement de l'idéologie. C'est une envie d'abrutir les masses, et sous cette prétention à représenter le réel, il y a en fait une intention de le façonner dans l'esprit du lecteur, donc de le figer pour que surtout l'ordre établi perdure. On bascule là brusquement dans la sociale trahison hitléro-trotskiste. À des titres divers, tout ça est vrai, ou a pu l'être, ponctuellement. Là où ça commence à craindre, c'est quand on en fait une loi absolue et qu'on commence à interdire l'avant du bus ou certains restaurants aux chiens et aux romanciers réalistes. Et encore ça, c'est en attendant les envoyer en camp de rééducation pour apprendre par cœur l'intégrale du catalogue des éditions de minuit. Bon, à prospérer comme ça une doxa, comme on ne disait pas encore à l'époque, selon laquelle seule peut être tolérée une fiction qui se dénonce elle-même comme telle, en affichant sciemment son invraisemblance et les traces de sa fabrication. Par exemple, sans même parler du nouveau roman ou des jeux oulipiens, le réalisme magique des Sud-Américains passait en crème entre les gouttes. Mais pour rester franco-français, parallèlement à ça, sévissait aussi un culte romantico-nihiliste de l'écriture avec un grand H. L'écriture envisagée non pas seulement comme une tauromachie, mais comme une expérience limite, avec des guillemets, et idéalement douloureuse. Pour relever de la compétence de la littérature, chaque mot avait dû être une question de vie ou de mort. Pour déterminer si ce qu'on lit était ou non de l'écriture, guillemets, la difficulté, pour ne pas dire la pénibilité de la lecture, constitue un critère infaillible. Le texte gagne à être exigeant. Le plaisir d'écrire est mal vu. Le plaisir de lire, lui, doit se mériter. Donc pendant une époque Cagne et deux Cagne, c'était ça la ligne du parti. À chaque épreuve de concours blanc, j'essayais de lui donner des gages. Et hélas, à chaque remise de notes, je voyais bien que j'étais un peu exclu du mouvement. Dans certaines matières, d'ailleurs, j'avais décroché dès la deuxième phrase du premier cours de l'année. Donc pendant les cours suivants, je lisais Rock et Folk, magazine consacré, comme son nom l'indique, à une musique bruyante. Je le lisais de la première à la dernière page, et puis je recommençais, mais en le lisant à l'envers, en espérant que du coup, des messages sataniques allaient s'en dégager, un peu comme des albums de Led Zeppelin. Et alors, parmi les gens qui signaient des articles dans Rock et Folk, certains me faisaient l'effet, en dépit de ce que je pouvais entendre d'une oreille distraite, certains me faisaient l'effet de pas si mal écrire que ça. Enfin, de pas si mal écrire. Disons d'écrire de façon efficace, éloquente, adaptés à leur sujet, connectés à l'époque dans laquelle nous vivions, et ça et là, comment dire, visités par, cette espèce de grâce, je ne sais quoi, qui fait la différence entre un poème de Rimbaud et une notice de montage de meubles IKEA. C'est-à-dire que ce n'était pas de la littérature officielle, mais ça et là, il y avait des braises qui crépitaient. Et surtout, ces gars-là me donnaient l'impression de s'amuser à faire ce qu'ils faisaient, contrairement aux camieux qui m'entouraient. Et du coup, je me disais qu'ils avaient la belle vie, puisqu'ils étaient payés, à l'époque, j'ignorais encore combien ils l'étaient mal, mais ils étaient payés pour faire ce qui, à moi, à l'époque, me coûtait beaucoup d'argent, à savoir acheter des disques, enfin écouter des disques et aller à des concerts. Et eux, en prime, ils voyageaient dans le bus avec les musiciens et ils faisaient croire qu'ils participaient à leurs orgies backstage. Donc tout à coup, c'était assez clair dans mon esprit. C'est ça que moi aussi, je voulais faire. Parmi eux, il y avait des gens comme Philippe Manœuvre, styliste sous-estimé, en dépit de ses lunettes Ray-Ban à verre miroir, Yves Adrien, l'excellentissime Bayon, et il y avait aussi quelqu'un dont j'admirais tout particulièrement le travail, à savoir Philippe Garnier. Philippe Garnier, qui était correspondant de Rock & Folk et de Libération à Los Angeles, et qui à l'époque était traducteur de Charles Bukowski, avant d'être aussi, plus tard, entre autres, celui de John Fante ou de James Slater, et aussi en 79 ou en 80, je ne me souviens plus, traducteur d'un curieux livre intitulé « Sanglantes confidences », en anglais « True Confessions », de John Gregory Dunn, qui le pauvre, mais pour une fois que c'est dans ce sens-là, c'est bien fait, est surtout connu pour être le mari de l'excellente John Didion. True Confessions a donné un film, comme de juste décevant, avec Robert De Niro et Robert Duvall. Mais ceux qui l'ont vu ou ceux qui s'en souviennent se rappellent alors que l'intrigue se déroule à Los Angeles dans les années 40 et que bien avant James Ellroy, il propose une première variation sur le thème du Dahlia noir et de cette malheureuse femme coupée en deux, retrouvée dans un terrain vague. Le livre est absolument extraordinaire. Les personnages sont riches, pittoresques, complexes, l'intrigue est arabiscotée et claire à la fois, les dialogues sont craquants et souvent désopilants. Pour le coup, dans True Confessions, on trouve une façon tout à fait ébouriffante de faire parler les simples, entre autres quelque chose qui n'apparaissait pas forcément complètement dans la version française, mais dont j'ai pu m'aviser plus tard quand j'ai été capable de le relire en anglais, c'est-à-dire une façon délicieuse de restituer les syntaxes chantournées, les tics et les mélodies du parler irlandais, et puis de toute façon de tous les patois, tous les argots des différents personnages que ça mettait en scène. Bref, c'était un roman policier beaucoup plus ambitieux que tous ceux que j'avais pu lire jusque-là. C'était écrit de façon beaucoup moins connotée ou stylisée que Révérence gardée, Chandler, Hammett ou James Cain. Et pour autant, avec beaucoup d'intelligence et d'humilité, ça respectait complètement les codes du genre. Ça les respectait et au passage, ça les célébrait. Et mine de rien, ça en faisait évoluer les limites en y injectant des ingrédients nouveaux. C'était, autrement dit, de la littérature de genre, de la littérature de divertissement, mais qui, tout en divertissant, rendait compte de la complexité du monde, sans toutefois en insulter ni en trivialiser la complexité. Tout additionné, on l'a compris, et c'est ça qui était le plus dingue sur le moment, c'était, c'est toujours, j'en suis sûr, un pur, un absolu, un total plaisir de lecture. Du coup, bien plus que l'envie paresseuse et évasive de travailler à Rock & Folk, parce que ça avait l'air moins chiant qu'un cours de philo, ou du moins plus dans les cordes de mon pauvre entendement, ce livre, True Confessions, a constitué, là pour le coup, un chemin de Damas, une épiphanie, ou pour le dire de façon moins biblique, simplement un déclic. Autant les géants, les mastodontes de la littérature qui étaient étudiés ou évoqués en classe constituaient des espèces d'Everest absolument impossibles à escalader par quelque face que ce soit, autant il était à l'évidence vain, grotesque, pour ne pas dire scabreux, de prétendre un jour boxer dans leur catégorie. Autant, à l'inverse, la fabrication d'un livre comme True Confessions, pour intimidante qu'elle soit sur le moment, paraissait, elle, au prix de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'efforts, mais éventuellement possible. L'idée d'essayer de procurer un jour à autrui un plaisir comparable à celui que je venais de prendre me paraissait des plus nobles, et me paraissait être un beau plan de carrière, un beau métier. Et comme métier, contrairement à celui de génie ou de géant de la littérature, un métier éventuellement à ma portée. Alors à ma portée, pas tout de suite, à l'évidence, parce que j'avais 19 ou 20 ans, donc raconter la complexité du monde à 19 ou 20 ans, il faut attendre un petit peu, mais donc avant ça, il allait falloir essayer de rentrer à Normale Sup, faute de pouvoir rentrer à Rock & Folk. Fort heureusement, j'ai un ange gardien, et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Dans sa sagesse infinie, le videur à l'entrée de Normale Sup m'a refoulé par deux fois, et je me suis vite retrouvé, non pas à rue d'Ulm, mais rue Chaptal, là où Rockefolk avait ses bureaux à l'époque. Et en y entrant, en 1981, j'avais toujours True Confessions en tête, et l'idée qu'il y avait plein de choses à faire avec les codes de la littérature de genre. Mais je savais aussi qu'il allait d'abord falloir que je m'aguerrisse et que je me forme. Pour ça, le rock me paraissait à l'époque le terrain idéal. Il y avait tout dans le rock. Il y avait le sexe, la drogue, la violence, mais aussi le sacré, le capitalisme, Dieu, le diable, tout ça. C'était sauvage, c'était shakespearien, c'était parfait. Donc je fais ça pendant un an en France, puis aux États-Unis, où je pars m'installer en 1983, comme correspondant de Rock et Folk, entre autres, et puis plein d'autres gens ensuite. Et toujours avec l'idée, un peu pathétique, mais obstinée, d'écrire un roman un jour. Sur quoi ? Sur le moment, je ne sais pas encore, mais je me dis qu'à moins d'être vraiment demeuré, en voyageant aux États-Unis et en traînant dans les arrières-cuisines de l'industrie du divertissement, c'est bien le diable si je ne trouve pas matière à un premier roman. Et là, en 87, deuxième choc, la lecture de la première fiction du chef de file de ce qu'on appelait le nouveau journalisme, à savoir Tom Wolfe. Bien mieux que Jay McInerney, ou du moins de façon beaucoup plus globale, Le bûcher des vanités, puisqu'il s'agit de lui, fournit le roman du New York des années 80. Là aussi, ça a donné un film merdique, mais le livre, lui, réussit à choper en temps quasi réel, enfin du moins au moment de sa parution, son époque et son environnement. Tout y est, les yuppies, Wall Street en roue libre, l'immobilier hystérique, les magouilles de Reagan, les crispations raciales, l'hédonisme échevelé, tout y est et plus vrai que nature. Et pour ma part, sur le moment, je trouve ça d'autant plus gonflé et fortiche que, à rebours des critères européens auxquels j'ai été exposé pendant mes dissuasives et inhibantes études supérieures, je vois l'auteur qui, toute honte bue, rend justice à sa ville et à son temps, je le redis, en temps réel, comme Dickens où, avait pu le faire pour Londres, ou Balzac avec le Paris qu'il avait sous les yeux. Par exemple, je me souviens d'avoir été très troublé en lisant le roman, de reconnaître mon quartier, de reconnaître des restaurants où j'allais, troublé et excité par ce que j'identifiais comme effet de réel, comme disait Barthes. Oui, monsieur Lescure, je sais. En français usuel, on dit « petit détail qui fait vrai et endort la méfiance ». Mais Barthes, lui, disait « effet de réel ». Et comme effet de réel, excusez-moi, pardon, mais ça marchait du feu de Dieu. De façon subliminale, on se disait, puisque ça, c'est exact, à savoir la couleur des sièges du restaurant ou l'emplacement du bar, du coup, on se disait aussi que le reste exact devait l'être aussi. Et par ailleurs, on savait gré à l'auteur d'avoir fait le déplacement et d'être venu voir, plutôt que de s'en être remis au pouvoir et à la paresse de son imagination. Donc ça aussi, ça inspirait sourdement confiance. Donc il y avait une prime, disons ça comme ça, à la déambulation en extérieur. Je me souviens particulièrement d'une interview où Tom Wolfe, à propos de déambulation en extérieur, incitait les romanciers à sortir de chez eux, à aller sur le terrain et à se frotter au réel. Et il y disait sa vénération pour Zola, et il racontait une anecdote que vous connaissez sûrement, mais que moi j'ignorais. Je vais vous dire un conte. Non, là, tout y est vrai, ou du moins tout est censé être vrai. C'est Zola en redingote, avec l'orgnon et la valière, et peut-être même des guêtres sur ses chaussures, qui va dans les corons en repérage pendant la préparation de Germinal. Donc il est là, on lui colle un casque sur la tête, qui doit lui donner l'air à peu près aussi con qu'à un président qui visite une usine de traitement de poulet surgelé. Il descend au fond du trou avec les mineurs, et une fois au fond de la mine, il voit de gros chevaux de trait. Et donc il s'étonne et il demande aux mineurs comment ils ont fait pour descendre de si gros chevaux en se servant d'une si petite nacelle par un puits aussi étroit. Et on lui explique que non, pas du tout. Les chevaux descendent, mais quand ils sont tout petits, encore à l'état de poulain. Et puis qu'ils grandissent et atteignent l'âge adulte au fond de la mine. Et là, Zola remarque que le cheval est aveugle. Alors il dit, ah bah oui. Forcément, qu'est-ce que vous voulez, M. Zola est tout le temps dans le noir, comme ça, fatalement, ou très vite, il perd de la vue. Évidemment, lui, un sort aussi funeste, une telle cruauté envers les animaux, lui inspire une analogie avec les enfants de mineurs qui descendent avec leur père avant même d'avoir atteint l'âge de se raser. Et c'est typiquement le genre de détail qu'il n'aurait pas trouvé en bibliothèque ou sur Internet. Et donc, c'est en se servant de ça que Tom Wolfe incitait les gens à aller voir dehors s'il y était, conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque moi qui étais pourtant, je vous assure, un intervieweur timide et un reporter poltron, ce qui au départ peut faire l'effet d'être une contre-indication pour le métier de journaliste, mais c'est vrai, chaque prise de rendez-vous, chaque pseudo-enquête, enfin c'était pas le Watergate, hein, je vous rassure, mais chaque investigation avec un petit i, c'était une mini-victoire sur moi-même, mais tant pis. Les exhortations de Tom Wolfe, le plaisir pris à lire Le bûcher des vanités, puis aussi ce que je pouvais constater à chaque fois que je me faisais violence, m'a conforté dans la conviction qu'il fallait toujours aller voir, qu'on ne revenait jamais bredouille, qu'il fallait toujours repérer et que rien ne valait le terrain pour un roman comme pour un article. Et comme terrain, après tout, pourquoi pas le ici et maintenant, pourquoi pas son pâté de maison qui, par une espèce de transmutation ou transfiguration quasi eucharistique, soit dit sans blasphémer, traité et transformé avec des mots, développé et révélé une deuxième existence et une capacité fictive qu'on ne lui soupçonnait pas en allant acheter sa baguette ou un six-pack de bière. Voilà. Donc, True Confessions de John Gregory Dunn, premier choc. Bûcher des vanités de Tom Wolfe, deuxième choc. Et pour parachever tout ça, il a fallu aussi, j'ai presque envie de dire surtout, un troisième larron. Et là, c'est pas juste un livre, c'est l'ensemble de son œuvre. Mesdames, messieurs, Elmore Leonard. Gorgée d'eau. En 1985, un dimanche, je lis dans le supplément littéraire du New York Times un article de Stephen King consacré à un roman intitulé Glitz et dont l'auteur s'appelait donc Elmore Leonard. L'article commençait de la façon suivante. Alors ce roman, comment il est ? Eh bien, la meilleure façon dont je puisse répondre à cette question est qu'il m'a coûté de l'argent. Quand je l'ai eu fini, j'ai foncé chez le libraire, acheté immédiatement tous les livres du même auteur que je pouvais trouver. Du coup, intrigué, j'ai moi-même acheté le roman en question et ça m'a fait pareil. Quand je l'ai eu fini, j'ai foncé chez le libraire pour rafler tous les Elmore Leonard que je pouvais trouver. Depuis, j'ai lu des livres de lui que je préfère, mais sur le moment, ce roman, Glitz, était tout simplement magique. Je ne me souvenais pas d'avoir lu déjà quelque chose d'aussi souple et dynamique. Et par dynamique, je veux dire péchu, enlevé, soutenu, sans temps mort, mais sans cette frénésie et cette intensité que les ellipses et les phrases brèves peuvent parfois communiquer à la prose de Dashiell Hammett, par exemple. Non, c'était tenu, mais c'était relâché à la fois, c'était rapide, mais sans précipitation, c'était emmené avec une énergie maîtrisée, avec une infinie douceur du toucher de balle, c'était avec une totale fluidité des enchaînements, le récit était naturel, sobre, simple, facile. Sur le coup, je vous rassure, je ne me suis pas dit tout ça comme ça, je me suis contenté de le kiffer. Mais quand même dans la foulée de celui-là, donc je m'envoie tout le fond de catalogue de l'auteur. Et fond de catalogue, parce que l'ironie veut qu'au moment où il est découvert, entre guillemets, en 1985, Elmore Leonard avait déjà 60 ans et publié une trentaine de romans. Comme quoi tous les espoirs sont permis. Carrière littéraire n'est pas un sprint, mais un marathon. Je dis ça pour moi. Et donc toute cette trentaine de romans, je les lis, et à chaque fois qu'il en publie un autre, je me jette dessus avec voracité. Et puis surtout, je m'efforce de mon mieux d'accueillir son influence dans mon propre travail, quand bien même à l'époque, je n'écris pas encore de romans policiers. En 1990, au bout de 7 ans aux États-Unis, je rentre en France et entre-temps, j'ai enfin réussi à finir un roman qui, La vie est belle, trouve un éditeur. Donc à partir de 1991, je commence assez régulièrement à finir des romans et à les publier. Mais des romans qui, chacun dans leur genre, chaque fois, s'excusent d'en être. Chaque fois, affichent clairement qu'ils ne sont pas dupes d'eux-mêmes et qu'il n'est pas question de s'abaisser à conclure le fameux pacte narratif afghan. Le bien entendu, et passe-moi le joint, dont je parlais tout à l'heure. Ni de demander à qui que ce soit de suspendre, fût-ce momentanément, son incrédulité. C'est comme si je continuais à donner des gages de peur qu'un prof de Cagnes ou l'un de mes anciens condisciples, ceux qui avaient des bonnes notes, ne viennent me regarder avec mépris en disant « Pouah, c'est du roman réaliste ». Et ça ne m'empêche pas de continuer à lire Elmore Leonard, à essayer de m'en inspirer du mieux que je peux, mais les livres que j'écris ne reflètent pas autant que je pourrais le souhaiter sa bienheureuse influence. Et pourtant, je vous assure, je lis, je relis ces livres pour essayer d'en percer le code, pour en comprendre le mécanisme. Comme un boxeur, je fais du sac avec ces bouquins, en espérant qu'à force de taper dedans, le cuir va se fendiller et que le sable va s'échapper et que vont filtrer quelques-uns de ses secrets. Alors à force, je réussis à identifier certains de ces trucs. Par exemple, que chaque séquence est présentée du point de vue d'un des personnages. C'est comme si les personnages se racontaient à eux-mêmes, ou plutôt racontaient eux-mêmes, nous racontaient eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Avec une troisième personne qui est en fait une fausse troisième personne du singulier parce qu'elle fonctionne à chaque fois comme un jeu différent. Du coup, l'effet produit est assez intéressant parce que le lecteur a l'impression d'être « embedded », comme on dit pour Harry Roselmack quand il passe 24 heures avec un service du SAMU. Donc le lecteur est intégré, comme ça, infiltré dans la tête du personnage. On vit la séquence à travers ses yeux et surtout à travers ses mots. Car les uns et les autres, à l'évidence, nous nous parlons à nous-mêmes de façon toute différente. Et surtout, nous nous parlons à nous-mêmes d'une façon différente que celle que nous avons quand nous parlons aux autres. Et donc, par exemple, si on doit retranscrire de façon réaliste, s'agissant de gens simples, la façon dont ils se parlent eux-mêmes, ça proscrit automatiquement les conjugaisons trop précieuses et trop raffinées. En anglais, ça va être le prétérit de certains verbes irréguliers. En français, ça va être le passé simple, qui est absolument abominable de ce point de vue, parce que nous partûmes, nous arrivîmes, personne ne se parle à lui-même comme ça. Donc il faut trouver des solutions pour ne pas les utiliser. Chez Elmore, Leonard, l'une de ces solutions passe par un usage tout à fait particulier du participe présent. Participe présent qui, très souvent, vient, et de façon très, très fructueuse, à mon sens, vient remplacer les verbes conjugués et produit, alors même que l'histoire est racontée au passé, une accélération plus vive encore que si c'était du présent de narration. Cette accélération, ce dynamisme, il s'explique très bien dès lors que le participe présent, le bien nommé, parce qu'il fait effectivement participer le lecteur et au présent, à ce qui est en train de se passer. Le participe présent, donc, c'est le verbe, mais exonéré de la lourdeur des procédures sémantiques que déclenche la conjugaison. On n'est pas dans l'être, on n'est pas dans le néant non plus, on est dans l'étang, qui est une sorte d'état intermédiaire. Et le participe présent, je m'en suis entiché, pour tout vous dire, au point d'avoir presque gâché, enfin un peu gâché, un de mes romans, en l'écrivant quasi uniquement comme ça, sous forme de participe présent, ce qui est quand même, pour le lecteur, un coup difficile à prendre. Je pense qu'au bout de 150 pages, si on arrivait jusque-là, ça va, on ne sent plus rien, mais les débuts peuvent être quand même déroutants. Bref, l'autre solution trouvée par Elmore, c'est de faire en sorte, autant que possible, que le récit progresse et que l'information soit distribuée au lecteur grâce au dialogue. Et dans ces dialogues, Elmore peaufine une façon, alors là, pour le coup, absolument imparable, de restituer le langage parlé. En France, le parler populaire est souvent retranscrit au moyen d'élisions et d'apostrophes qui, je trouve, font assez vite mal à l'œil. L'apostrophe écorche la prunelle. Elmore, lui, nous épargne ces inconvenances typographiques et juste se dispense d'insérer certains mots, ceux que le locuteur avale et que, du coup, notre oreille n'entend pas. Sauf que dans la vie de tous les jours, on ne prête pas forcément attention au fait qu'il y a des choses qu'on ne prononce plus depuis belle lurette ou qu'on n'entend pas. On les reconstruit inconsciemment. Mais si on retranscrit la partition exacte de ce qu'on dit et de ce qu'on entend, là, subitement, ça produit à nouveau un effet de réel ou de vérité tout à fait saisissant. Alors, évidemment, la grammaire en prend un coup, mais la vérité y gagne. Parce que, comme dirait Blaise Pascal, il y a des fois où il faut dire « je suis sur Paris en ce moment », et d'autres fois où il faut dire « je suis sur la capitale du royaume ». Voilà. Et donc j'étudie, je vous disais, très, très méthodiquement les livres d'Elmore pour m'imprégner de ses méthodes, et je suis aidé dans cette coupable entreprise quand en 2001, il participe à une série d'articles que le New York Times commande à divers écrivains en leur demandant de parler de leur travail. Et là, l'article que rend Elmore consiste en 10 règles d'écriture qu'il se félicite d'observer. Sur les 10, je ne suis pas un peu fier de le dire, j'en avais identifié un peu plus de la moitié, mais elles sont bien sûr encore plus évidentes si c'est formulé par lui. Et en voici quelques-unes. Par exemple, ne jamais commencer une histoire en disant le temps qu'il fait. Éviter les prologues, ils ne servent à rien. Mollo sur les points d'exclamation. N'utilisez pas d'autre verbe que le verbe dire pour lancer le dialogue. N'employez jamais d'adverbe pour nuancer le sens du verbe dire. D'ailleurs, n'employez jamais d'adverbe. Dispensez-vous d'écrire les passages que le lecteur va certainement sauter. Ce sont ceux qui vous prendront le plus de temps. Ça, c'est tellement vrai, mais tellement vrai. Et là, parce que là, il explique, par exemple, il dit quand on voit un gros paragraphe de prose bien compact, bien étouffe chrétien, on est tenté de le sauter et d'aller direct à la suite, alors qu'on ne saute presque jamais une ligne de dialogue. C'est QFD. Surtout, après avoir énuméré ces 10 règles, il énonce son 11e commandement, celui qui résume tous les autres, et qui est « Si ça fait écrit, je le réécris ». Pourquoi, me direz-vous, cette hantise que ça fasse écrit ? Eh bien, rappel, parce que nous sommes censés être dans la tête des personnages et vivre les événements avec leurs mots. Voilà pourquoi le passé simple est proscrit, et le plus que parfait du subjonctif, donc. Tant et si bien qu'à force de laisser la main et la parole au personnage, on voit bien que tout ce dispositif, en fait, n'a qu'un but, c'est de consommer la disparition du narrateur omniscient, expurger le texte de toute trace de l'auteur, quand il viendrait malencontreusement s'interposer entre l'action et le lecteur. Ces traces, par exemple, ce sont des verbes compliqués pour lancer le dialogue, du type « éructa-t-il » ou « renifla-t-elle ». Si vous avez besoin de préciser qu'une réplique est éructée ou reniflée, c'est qu'elle est mal écrite ou que vous avez mal fait votre boulot avant. Autre exemple de traces de l'auteur, les adverbes pour qualifier dire. Dire, ça n'est pas un mot, c'est un clou. C'est un boulon, mais un clou auquel on accroche une réplique. On cesse vite de le voir. Mais dans dit méchamment, méchamment, c'est une intrusion de l'auteur. Pareil, si l'auteur a besoin de préciser que c'est dit méchamment, c'est qu'il a merdé quelque part. On voit bien du coup que pour un narrateur qui souhaite disparaître, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a d'associer le mouvement de la narration le plus possible au dialogue. Parce que le dialogue représente ce que les personnages ont en commun et ce qui n'appartient qu'à eux. L'auteur n'y a aucune part, etc., etc., etc. Disparition du narrateur omniscient, donc plus de « je retiens un ». De tout ça, je tire une conclusion double qui ne m'arrange pas forcément, à savoir, un, si je veux écrire comme Elmore Leonard, il faut que moi aussi, je m'efforce de disparaître derrière mes personnages. Mais donc, deux, si je n'ai plus voix au chapitre, je ne vais plus pouvoir faire le malin, adresser des clins d'œil connivants au lecteur, essayer d'établir avec lui une espèce de complicité de bon aloi entre gens du même monde qui savent que l'illusionnisme romanesque à des fins de vraisemblance est une pratique périmée, etc., etc. Enfin, tout le traumatisme enduré pendant mes humanités et mes classes préparatoires. En d'autres termes, si je disparais, je ne vais plus pouvoir m'excuser d'écrire un roman. Il va falloir assumer, prendre le risque du premier degré, et on y soit qui mal y pense. Autrement dit, il va falloir que, contrairement à Paul Valéry, et c'est là la moindre de nos différences, il va falloir que j'écrive que la marquise sortit à 5 heures. Eh oui. Donc en 2005, je m'enhardis, je me jette à l'eau, et je demande à des gens que je ne connais pas de croire à des personnages que j'ai inventés et auxquels moi-même je vais faire l'effort de croire le temps de l'écriture si je veux avoir une chance qu'à son tour le lecteur y croit, du moins pendant le temps de la lecture. Et donc je me hasarde à essayer de conclure à la loyale le fameux pacte à la con avec le lecteur. Quand je dis à la loyale, ça veut dire que je m'engage à faire ma part, c'est-à-dire à prendre le risque d'avoir l'air idiot ou balourd ou pâteau, et de faire tout mon possible pour que le lecteur marche, tombe dans le panneau, et pour qu'à aucun moment il n'y ait des warnings qui se déclenchent et qu'il se dise « non, là, vraiment, on se fout vraiment trop de ma gueule ». Dans le pacte, c'est que je m'engage à moi me faire chier pour que le lecteur, lui, s'amuse. Et en échange, lui, il joue le jeu, il s'abandonne, comme on disait jadis d'une marquise qui cédait, mais à 5 heures, mais du matin cette fois, Ça veut dire que le lecteur, oui, donc s'abandonne, cède, mais se prête à la manipulation entre adultes consentants. Et la manipulation, ma foi, c'est comme tout, c'est technique, ou plutôt c'est des techniques. Ça s'apprend en le faisant. Je compare souvent l'écriture à la cuisine, parce que je cuisine un peu, donc je vois bien les analogies d'assemblage, de tambouille et puis d'accidents bienheureux. Mais je suis sûr que ça a aussi à voir avec l'ostéopathie, parce que je pense que à certains égards, c'est écrire bien, ça ne veut rien dire, enfin pour moi ça ne veut rien dire, mais écrire de façon efficace et adaptée à son sujet, ça veut sans doute aussi dire savoir où appuyer, à quel moment et avec quelle intensité. Donc, ostéopathie ou kinésithérapie. Et là, comme je disais en commençant, si le lecteur est d'accord, si le pacte se conclut, il est implicite, il est signé et paraphé avant de commencer à lire. Tout n'y est pas vrai, mais tout n'y est pas faux. Et dans ce qui suit, les 10% de pour de vrai vont servir à faire avaler les 90% de pour de faux. Les 10% de pour de vrai, c'est quoi ? Ben, c'est de la mustapie, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la verroterie pour un indigène, c'est un leurre, comme on utilise les prestidigitateurs, les magiciens, ou les joueurs de bonneteau. C'est, je vous endors, par exemple, avec les repérages. Tel Zola au fond de sa mine, ou Tom Wolfe à Wall Street, ou dans les tribunaux du Bronx, je vous disais, tout est repéré. Et chaque décor donc, fait l'objet d'une visite, d'autant plus minutieuse que, précisément, je ne vais pas le décrire. Je ne peux pas le décrire, puisque ce n'est pas moi qui vous y emmène, c'est le personnage. Or, le personnage, lui, ne va pas se décrire à lui-même un endroit qu'il connaît déjà par cœur. Les seuls détails que le personnage va noter et donc, si j'ose dire, conscientiser, donc on va retrouver dans le texte, c'est ceux qui sont nécessaires au déroulement de l'intrigue ou qui constituent une anomalie par rapport à la dernière fois qu'il a visité l'endroit. Mais c'est là la beauté du procédé, ces quelques bribes, ces éléments épars qui vont être relevés en passant par le personnage, ils vont vous suffire, à vous, lecteur, pour vous faire votre mayonnaise et vous représenter l'endroit. Et y croire. Dès lors que c'est vous qui, inconsciemment, vous serez décrit l'endroit à vous-même. Voilà, tout seul comme des grands. L'autre technique, c'est comme je disais à propos d'Elmore, c'est de faire autant que possible parler les personnages comme leurs alter-ego dans la vraie vie. Ni plus ni moins, mais en identifiant et en reproduisant leurs tics de langage et leurs fautes de grammaire pour leur faire dire, comme ils les diraient dans la vraie vie, des choses qu'à l'évidence, ils ne diraient jamais dans la vraie vie. Alors, c'est assez casse-gueule. Au début, par exemple, quand j'ai commencé à écrire des romans dans cette veine en 2005, celui qui a attiré l'attention et emporté la conviction de monsieur Zin, qui est dans le cinquième dans cette veine, mais donc au début, les personnages parlaient un peu tous pareil, dès lors qu'ils parlaient un peu tous comme moi, de façon encore plus caricaturale. Donc, évidemment, le manque de naturel pouvait nuire à la vraisemblance. Mais au fil des 5 livres écrits, ça s'est un peu affiné, et j'ai appris à tricher, et à tricher, entre autres, en faufilant un point de référence, à savoir des personnages qui, eux, s'expriment à peu près normalement, ou même carrément élégamment, pour donner l'échelle et permettre de faire la différence avec les autres. Et du coup, exactement comme chacun des endroits, je le redis, fait l'objet, je le dis, parce que comme ça me coûte, j'en suis très fier, fait l'objet d'une visite, d'un repérage minutieux, comme si j'étais un metteur en scène qui repérait ces décors, les personnages sont de la même façon, eux aussi, repérés et visités. Alors, à l'évidence, aucun n'existe en l'état. C'est à chaque fois l'habituel composite Frankenstein de plusieurs sources. Mais leurs différents modèles ont tous été rencontrés et surtout écoutés avant d'être amplifiés, déformés et réinventés. Et donc, c'est comme ça, depuis 10 ans et 5 romans, que je fais l'effort ou délibéré d'appliquer la méthode d'Elmore Leonard et d'essayer d'imiter de mon mieux ses techniques. Je dis bien d'imiter, et sans de façon absolument officielle, au grand jour, et sans le moindre état d'âme, car l'imitation telle que je l'entends ici n'a rien à voir avec le plagiat, ni même avec cette très jolie chose qui est le pastiche. Ce n'est pas de l'imitation à la Laurent Gérard vis-à-vis de François Hollande, c'est plutôt l'imitation, soit dit en toute modestie, avec le respect des proportions, comme, donc, au moins dans l'intention, c'est l'imitation comme Keith Richards vis-à-vis de Chuck Berry. En sachant très bien que dans ce genre de démarche, d'imitation d'un maître par un élève, la mauvaise nouvelle pour l'élève, c'est qu'on ne réussit jamais à reproduire à l'identique le modèle. Mais de ce fait, la même, l'éventuelle bonne nouvelle pour l'élève, c'est qu'en dépit de tous ses efforts, on ne réussit jamais à reproduire son modèle à l'identique. Et si on a soi-même une chance d'avoir, si peu que ce soit, son propre style, c'est dans le delta creusé entre l'original et la copie imparfaite qu'on en propose qu'il aura pu émerger ou se dessiner. Vous l'aurez compris au bout de 3 heures de baratin, enfin pas tout à fait, parler des simples, faire parler les simples n'est pas simple. C'est même très compliqué. C'est compliqué tout bêtement parce que le naturel est le plus roué des artifices, le plus roué, le plus madré, c'est-à-dire le plus grand, le plus faux, et du coup, c'est celui qui, pour être réussi, exige le plus de travail, un travail qui, de surcroît, ne peut ni apparaître ni être revendiqué sous peine de briser le charme. Donc c'est aussi, de tous les artifices, celui dont le choix trahit le plus d'orgueil et de conscience de sa valeur, laissant le « m'as-tu vu quand j'écris beau » à plus menu fretin que soi. Il n'y a donc aucune modestie, aucune simplicité à s'efforcer de disparaître en tant que narrateur omniscient. La disparition du narrateur ne signifie pas, tant s'en faut, celle de l'auteur. Il n'y a aucune modestie non plus dans le choix de la littérature de divertissement ou de la littérature de genre. Car si mes traumatisantes études, n'est-ce pas, auront au moins servi à quelque chose, c'est qu'à défaut de m'apprendre à écrire, elles m'auront au moins un peu appris à lire et donc à savoir que la littérature, au sens littéraire du terme, la littérature, donc, quand c'en est vraiment, la littérature, donc, ne se décrète pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et dès lors, quand on fait profession d'écrire des livres, la seule obligation, la seule vraie noblesse de cet artisanat, c'est d'essayer de produire la meilleure, la moins chiante, la plus distrayante des lectures possibles. Les dieux ensuite reconnaissent les leurs et y reconnaissent leurs petits et font le tri. Mais pas simple, pas modeste, mais bien pire encore, parler des simples ou faire parler les simples ne veut absolument pas dire qu'on va parler aux simples en masse, hélas. Non content donc de ne pas être facile, de ne pas être humble, c'est même pas une bonne idée d'un point de vue commercial. En effet, les simples, ces ingrats, ne vous sont d'aucune reconnaissance de vous être échiné à restituer leur parler fautif au plus près. Peu leur chaud. Je ne dirais pas salaud de pauvre, mais fumier d'analphabète, ça oui. Car pour le simple, ou disons pour le grand public, le livre reste un achat valorisant et il faut qu'il soit bien écrit comme à l'école. Ce qui veut dire qu'en faisant parler les simples, on se condamne du coup, au contraire, à un public de lecteurs très 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 éclairés, très à l'aise dans ses baskets culturelles, mais du coup forcément plus restreint. Et ça, évidemment, on ne peut pas tout avoir, la quantité, la qualité, et en voyant le nombre d'exemplaires vendus de mes romans où des simples parlent comme des simples, et en voyant ce nombre rester désespérément limité à 4 chiffres, je me suis consolé en m'avisant de l'extrême qualité et altitude de ce lectorat d'élite. Si je devais avoir le moindre doute sur l'élévation intellectuelle, le degré de culture et la finesse de jugement de mes lecteurs, ce doute, l'invitation de Michel Zinc l'aura dissipé. C'est donc du fond du cœur que je l'en remercie. Et vous, ma foi, j'espère que vous ne lui en voudrez pas trop de m'avoir donné la parole.
depuis 22 ans que je suis dans la maison, et pour ma dernière année, jamais nous n'avons eu un séminaire aussi enthousiasmant et des applaudissements aussi nourris. Nous, on sent peu de choses. Et je ne sais pas par où commencer. D'abord, enfin, bon, pas par là, mais je me faisais deux colonnes, pas, devant ce personnage bifront, ce qui relevait du côté canial, ce qui relevait du côté folk et rock. Tiens, naturel et vraisemblance, ça c'est un titre de dissertation canial, et qui dément un peu le look, le texte est écrit, ce qui est canial, mais il est écrit en très grosse police, qui montre le souci de ne pas montrer qu'on lit son texte.
On a tous nos coquetteries.
Ah, bah, ça, oui, mais j'ai la même. J'ai coincé ma veste dans le truc. Bon, bah, bon, on verra ça après. Et ben, je ne peux pas me lever, du coup. Et une réflexion pour s'indigner, des oukases de la fin des années 70 et la proclamation de la fin du roman, mais moi j'entendais déjà ça de mon temps, mais pour aboutir à kiff, un effort mais vraiment d'une subtilité extrême pour démonter la façon dont un roman est écrit, construit, etc., mais à propos de Elmore Leonard. Et voyez, je me disais, mais je n'arrivais pas à l'analyser, la supérieure, voilà, donc j'ai lu Bonus et Kiff, je trouve que Kiff, c'est mieux. Pourquoi est-ce mieux? D'abord parce que la différenciation entre les façons de parler des personnages est plus nette, et d'autre part, cette formule admirable, il faut des personnages qui parlent normalement ou même élégamment pour donner l'échelle par rapport aux autres et pour faire comprendre. Ça, c'est parfaitement fait dans Kiff. Et alors, à la fin, vous avez montré, mais enfin, effectivement, les limites de mon sujet, vous avez mis le doigt sur le fait que mon sujet ne marche pas.
Et c'était pour dire c'était pas l'intention.
C'était pas l'intention. Alors, donc, vous avez dit, c'est très très difficile de faire parler les simples. Il faut être un excellent écrivain, tandis que écrire comme m'as-tu vu comme j'écris beau, ça tout le monde peut le faire. Ça, vous avez absolument raison. Dire que, et vous avez dans votre conclusion, des amis, est vrai aussi, parler des simples, ce n'est pas du tout la même chose que parler au simple, et un lectorat simple aime un style endimanché. C'est comme pour les vêtements. Alors, si j'invite quelqu'un de vraiment simple à parler à mon séminaire, il ne viendra pas en veste de jean. Moi, je vais en blazer parce que je suis un être simple. Et on voit bien, enfin, j'avais connu une fois une dame, ne vous méprenez pas, une dame qui écrivait des harlequins. Et alors, elle disait, oh, c'est difficile. Elle-même, c'est comme dit Lénine, il faut être d'un pas en avance sur la masse, mais d'un pas seulement. Elle était à peu près au niveau de son lectorat, un tout petit peu au-dessus. Et elle me disait, oh, c'est difficile parce que il faut que ce soit bien écrit, hein. On relit, il ne faut pas qu'il y ait de faute de français. Et voilà, effectivement, c'est comme ça que les harlequins marchaient. Alors, au regard de mon sujet, vous vous rappelez, l'an dernier, le thème était uniquement parler aux simples gens. Voilà. Et c'était l'idée de départ, c'était que dans l'Occident médiéval, la langue vernaculaire, donc la langue populaire, en fait, la langue née sur les débris du latin parlé, est devenue beaucoup plus vite une langue littéraire que dans d'autres régions du monde, où on a, où l'arabe, là il y a le Coran, mais l'arabe littéral reste indéfiniment l'arabe d'écriture, au regard des arabes dialectaux, ou pareil pour l'hindi, pareil, etc. Il y a eu la nécessité de la prédication, de la conversion, ça. Donc on a dû assimiler cette langue des simples assez vite pour la leur retourner. Mais c'est dans ce sens que je le prenais. Puis ensuite, on a vu avec les sermons, tout ça, comment on s'y prenait. Et nous avons vu que dans l'effort pour parler aux simples, on essayait de parler comme les simples. Et c'est pour cela que, en fait, j'aurais dû m'arrêter l'an dernier, mais pour cette ultime année où je traîne mon dernier souffle, et, j'avais proposé de développer ce thème, parler des simples en les faisant parler, et comment les fait-on parler, enfin bon, etc. Bon. Mais fondamentalement, ça n'a rien à voir. Et c'est au contraire une dichotomie, comme nous venons de l'entendre tout magnifiquement. Enfin bon, l'histoire là, le conteur afghan, les autres répondent bien entendu, qui dit « tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux », eh bien, c'est ce qu'on trouve sous la plume de Wass quand il présente pour la première fois le roi Arthur. Les conteurs ont tellement tant conté, les fableurs tant fablé, qu'on est arrivé à ça. C'était ni complètement fable, ni complètement vérité, ni complètement mensonge, ni complètement vrai. Donc, c'est sans intérêt, mais enfin, ça fait comparatif. Bon. Et alors, je dis tout ça pour cacher la honte ultime que je révèle après avoir donné la parole à la salle. Vous voyez, je me couvre toujours de honte, mais alors là, c'est vrai. Car nous avons appris que le jeune Laurent Chalumeau a été en hippocagne, puis en carré, puis cube, de 1978 à 1980. Il a donc passé le concours en 1979 et 1980. Et j'étais à l'époque au jury de ce concours.
Merci, donc, merci. Je vous dois décidément énormément.
Avec, j'avais un binôme avec Jean-Claude Mathieu, grand spécialiste de René Char et de la poésie contemporaine. On allait d'un air. Mais enfin, bon, je dis n'importe quoi dans mon enthousiasme. Et comme les apôtres à la Pentecôte, mais la salle à la parole.